L'évangile de Matthieu, chapitre 6, et nous relisons la prière du Seigneur qui commence au verset 9. Voici donc, dit le Seigneur à nous, comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Aujourd'hui, nous arrivons donc à la deuxième et la troisième requête de la prière du Seigneur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Les deux sont intimement liés. Le règne de Dieu, ou le royaume de Dieu. La version française, je crois, a raison de traduire ça, que ton règne vienne. Si vous voyez dans d'autres langues, parfois, c'est que ton royaume vienne. Mais dans un sens, ça n'a pas de sens, parce qu'un royaume ne peut pas venir. Un royaume est un domaine, une sphère ou un peuple, mais un règne est une puissance dynamique qui peut venir s'exercer. Et le règne de Dieu, c'est ce que nous devons comprendre par ce mot grec « basileia » que nous voyons des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois dans l'Évangile. Jésus nous parle constamment du royaume de Dieu, du règne de Dieu. Par exemple, lorsqu'il commence son ministère, Jean le Baptiste vient de signaler que c'est lui le Messie, et il dit, Jésus dit, le temps est accompli, et le royaume de Dieu, le basileia de Dieu, est là. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et on nous dit la bonne nouvelle du royaume, ou la bonne nouvelle du règne de Dieu, la bonne nouvelle de ce basileia. Donc, nous allons suivre la feuille que vous avez, parce que en réfléchissant, en priant au sujet de ce message, je me suis dit que vous ne pouvez pas comprendre cette requête, que ton règne, que ton royaume vienne, à moins que vous compreniez qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu, ou le règne de Dieu. Et donc, nous allons avoir un peu d'enseignement aujourd'hui. Et nous arrivons dans le point 4 du sermon sur cette question, qu'est-ce que ça veut dire quand vous priez que ton royaume ou que ton règne vienne? Ben, il faut que nous y arrivions. Ok, les trois premiers points. On commence avec le premier. Ce qui détermine la sorte d'existence que vous avez maintenant ou après la mort, c'est ce qui règne sur vous ou celui qui règne sur vous. Parfois, nous pensons que ce qui va déterminer notre existence, sa qualité, son bonheur ou sa misère, c'est nous-mêmes. C'est nos choix, c'est nos efforts. je m'en disconviens pas. Nos choix ont leur importance, mais essayez tout ce que vous pouvez. La chose qui détermine de manière fondamentale la sorte d'existence que vous avez, ce n'est pas vous, c'est ce qui domine sur vous. Dans quel royaume êtes-vous? Parce que nous sommes toujours dans la subordination à un pouvoir qui est plus grand que nous. L'illusion de l'autonomie, on peut le rejeter. L'être humain est fait pour servir. Bob Dylan a chanté dans un de ses chants, dans sa phase entre guillemets chrétienne, nous devons tous servir quelqu'un, que ce soit le diable ou que ce soit le Seigneur. Et là, il parlait de manière biblique. Mais je veux vous donner une illustration pour vous montrer que ce qui est roi sur vous détermine votre existence. Alors, nous vivons dans un royaume, c'est une image, et le roi s'appelle Monsieur Gravité. Ça veut dire que donc ce qui détermine, pour une bonne part au moins dans le domaine physique, mon existence, ce que je peux et peux pas faire, ce n'est pas moi et mes efforts, c'est la gravité qui règne physiquement sur cette planète. J'aimerais bien sauter jusqu'à la Lune, mais ce n'est pas moi qui détermine. Je vis sur le règne, sur la domination de la gravité qui délimite et me contraint d'avoir une certaine sorte d'existence. Vous comprenez? Donc, ce qui règne sur moi détermine comment je peux bouger. Et là, je parle simplement dans le domaine physique. Vous allez me dire, un vaisseau spécial, oui, mais même le vaisseau spécial, il est contraint par la gravité. Il y a des choses qu'il peut et ne peut pas faire. Donc, vous pouvez comprendre que si vous viviez à l'époque de Staline, dans le domaine économique ou social, votre existence n'est pas déterminée fondamentalement par vous-même, mais par celui qui règne sur vous. Vous êtes limité et délimité par ce pouvoir qui est au-dessus de vous. C'est juste des illustrations pour montrer que nous sommes aux dépens. Alors, la Bible nous enseigne que nous, depuis la chute de l'homme, nous vivons sous le règne de Satan et du péché. Nous ne sommes pas autonomes. Jésus dit ceci en Jean 8. Regardez votre fiche. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché, donc sous le règne du péché. C'est pour ça que Paul dit à Tite, et vous l'avez sur votre fiche, car nous aussi, nous étions autrefois, il parle d'avant sa conversion, insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, ainsi de suite. Et c'est pour cela que Paul explique l'avant et l'après de la conversion chrétienne de cette manière en Romains 6. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave, donc sous le règne, dans le royaume de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, c'est pas vous qui l'avez fait, après avoir été esclave du péché, il parle aux chrétiens, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine, donc l'évangile, qui vous a été transmise, libéré du péché, du règne du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Donc l'esclave de Dieu. Vous avez transféré de royaume. Et donc c'est Dieu et Christ et son esprit qui sont le facteur dominant dans votre vie. Donc nous pouvons bien voir le premier point du sermon d'aujourd'hui, c'est que ce qui détermine votre existence dans le domaine moral et spirituel, c'est est-ce que le péché règne sur vous ou est-ce que le Christ règne sur vous? Deuxième point. Tout notre bien réside dans le fait de vivre, pardon, il y a quelques fautes de tape là, dans le fait de vivre sous le règne de Dieu, c'est-à-dire de faire partie du royaume de Dieu. Ça va bien à l'encontre de la pensée des hommes. Nous sommes dans le pays de liberté, n'est-ce pas? Liberté, fraternité, égalité. Et dans la pensée de l'âge des Lumières et de la Révolution française, la liberté signifie autonomie. Et la Bible enseigne exactement le contraire. La Bible enseigne que le bien ne vient pas quand je suis absolument libre de faire comme moi je veux et je ne suis sous aucun pouvoir sauf le mien. Mais la Bible enseigne ce mystère que tout le bien que l'homme devait avoir vient du fait de vivre dominé par le Dieu créateur plein de grâce et de sagesse. Cette domination n'est pas la domination d'un tyran, bien sûr, mais c'est la domination bienfaisante d'un roi aimant. Et c'est pour ça que je vous ai lu le psaume 72 tout à l'heure, n'est-ce pas? Vous voyez que ce roi Messie, il vient comme une pluie, comme les ondées, la pluie du matin sur une terre fauchée. D'accord? Et sa domination est une domination qui brise les liens que nous avons et qui nous libère. Donc, c'est très dur pour nous, très dur de penser que le bonheur peut nous venir d'un état de subordination au règne de Dieu et au règne de Christ. N'est-ce pas? C'est très dur. Nous avons, nous, ce péché dans la nature même et de vouloir être sujet à personne. Et ça, c'est le mensonge magistral du diable que de nous faire penser que je suis plus sage et mon pouvoir est plus grand que celui même du Créateur. Mais je veux quand même compatir un peu à cette pensée, cette crainte de la subordination, parce qu'il y a deux sortes de subordination qui mènent à la misère. Vous les avez là sur votre feuille, sur le point 2. D'abord, la subordination à une personne ou un pouvoir qui est mauvais en soi, mauvais ou mauvais en soi. Par exemple, si la drogue règne sur moi, si je suis asservi à une drogue, accoutumé, alors cette subordination, bien sûr, mène à la misère parce que c'est un seigneur mauvais. Ou bien, si j'étais citoyen dans le royaume, dans l'empire de Staline, bien sûr. Mais tout dépend de la sorte du règne sur lequel vous êtes subordonné. La deuxième sorte de subordination qui mène à la misère n'est pas la subordination à quelque chose de mauvais, mais quelque chose de bien. Mais comment est-ce que ça peut mener à la misère? Donc, vous le voyez sur l'affiche. La subordination à une loi qui est bonne en soi, mais vous étant dans l'incapacité de lui obéir, d'obéir à cette loi. Imaginons de vivre, d'avoir la loi de Dieu qui nous commande d'être saint, pur, pas égoïste, aimant, etc. Et ça, c'est la règle qui domine sur ma vie, mais moi-même, dans mes penchants du cœur, dans mes dispositions, je ne veux pas ça. Je ne suis pas capable d'y obéir. C'est misérable, ça. Et ça, c'est ce que la Bible appelle la loi, le régime de la loi. Le régime, une religion de loi, n'est pas l'évangile, parce que, écoutez bien, vivre sous la loi de cette façon, c'est être commandé de voler sans recevoir des ailes. Imaginez que Dieu vous commande de voler, mais qu'il ne vous donne pas des ailes. Alors, ça, c'est la misère, n'est-ce pas? C'est terrible, ça. À un moment donné, oui, Dieu nous fait passer par cette phase, nous, les rebelles. Afin de nous amener à Christ, il faut que nous passions par une phase de loi où nous tentons d'obéir, nous n'avons que l'exigence, hein, parce que la loi ne demande et ne donne rien. N'est-ce pas? La loi ne fait qu'exiger. Mais la loi ne vous donne pas la capacité d'y obéir. Et Dieu, on annonce l'évangile, mais le non-chrétien au début, il n'entend que loi. Moi, je peux vous annoncer le don de Dieu et tout ce que Dieu veut. Mais essentiellement, le non-chrétien, il n'arrive pas à écouter cela. Et il essaie d'être ce qui est exigé. Et donc, ce qui arrive, c'est de plus en plus, il voit que j'arrive pas, c'est terrible, c'est malheureux. Au début, il y arrive, hein, je vous assure. Parce qu'on peut ôter de notre vie certains péchés extérieurs assez facilement, d'un coup même. On peut arrêter de boire ou arrêter de fréquenter certains endroits. Mais puis, quand il y a certaines mauvaises attitudes profondes, on voit que, oh là, j'arrive pas. Oh mince. Mais l'évangile, Christ n'est pas venu pour vous mettre sous le règne d'une loi qui demande et ne donne rien. Il est venu pour lui-même régner sur vous en vous donnant un nouveau cœur, en vous rendant de plus en plus capable d'obéir, d'être ce que vous devez. Et donc, c'est pour ce cas-là que nous lisons dans Acte 13 que vous voyez sur votre fiche. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. Quiconque croit donc en Jésus est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. La loi est venue par Moïse, mais la grâce qui donne est venue par Jésus-Christ. Donc, le Seigneur nous dit de voler moralement et il nous donne des ailes. C'est ça l'évangile. Philippiens 2, que vous avez sur votre feuille, le montre parce qu'il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, ça c'est le deuxième point. Le premier, c'était ce qui détermine votre existence, c'est ce ou celui qui règne sur vous. Et deuxièmement, le bien, tout notre bien réside dans le fait d'être sous le règne, dominé par ce Dieu sauveur. Troisième point. Ok, maintenant, l'enseignement, un peu plus dense. Qu'est-ce que le royaume ou le règne de Dieu, en fait? Le basilia de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Et quand je prie que ton règne, ton basilia vienne, remarquez que quand nous prions la prière du Seigneur, nous disons d'abord que ton nom soit sanctifié, mis à part, élevé dans notre estimation, et que ton règne vienne. Donc le règne de quelque chose, le règne de Dieu est quelque chose de dynamique qui vienne. Donc, nous allons décliner le sens de ce royaume de Dieu, au règne de Dieu ainsi. Numéro 1, point petit a dans votre fiche. Ce n'est pas un royaume de ce monde terrestre géopolitique visible. Dans l'évangile de Jean, chapitre 18, Jésus est devant Pilate, il va être crucifié. Pilate le questionne, l'interroge, et Jésus répondit, mon royaume, mon basilia, n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici-bas. D'accord? Nous ne prions pas, chers amis, pour un certain état de choses politiques, que tel devient président ou que tel institution humaine soit installée. Nous pouvons bien le vouloir, nous pouvons prier que nos dirigeants soient aussi sages possible, mais ce ne sera jamais le royaume de Dieu, quelque bon qu'il soit. Deuxième point, un peu de définition. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est un nouvel ordre imposé par la conquête de Dieu en envoyant Jésus-Christ, où Dieu règne et domine plutôt que le mal ou le moi ou le malin. Les trois M. Le mal, ou le moi, ou le malin. J'ai donné une définition un peu plus longue pour vous expliquer ça. Je lis. c'est l'opération, le royaume de Dieu, c'est l'opération et la manifestation de la gloire de Dieu quand il agit en puissance pour affirmer sa seigneurie dans un monde déchu, en renversant l'ordre établi par notre péché, en nous délivrant de la misère établie par notre péché, et en rétablissant des hommes dans l'amitié avec Dieu, dans la droiture et dans le bonheur qu'il a prévu pour eux au début. Ok, ça va devenir plus concret, c'est très abstrait, mais ça va devenir concret maintenant avec les deux prochains points. Trois prochains points. Le petit C. Le royaume de Dieu est un royaume offert à tous, à tous les hommes, mais dans lequel seulement certains entrent par le don de Dieu. L'évangile est annoncé à tous. Mais beaucoup de gens, si vous avez essayé d'annoncer le royaume de Dieu, vous le savez, beaucoup ne veulent surtout pas que Dieu ou Christ règne dans leur vie. Nous voyons cela que c'est un royaume qui, dont tous ne font pas partie. Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et dans Colossiens 1, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour. Ensuite, le point D. Ok, le royaume de Dieu, c'est pas de ce monde, c'est cet ordre que Dieu établit lorsqu'il renverse le mal, lorsqu'il change et lorsqu'il devient celui qui domine dans notre vie. Et le royaume de Dieu vient en trois phases. Écoutez bien, parce que vous pouvez tout mettre dans la confusion par rapport au christianisme si vous ne comprenez pas ceci. Le royaume de Dieu, selon le Nouveau Testament, vient en trois phases. Des gens ont fait des choses les plus impensables parce qu'ils ne comprenaient pas ceci. La phase d'inauguration, au moment de la venue de Jésus, la moment de continuation dans laquelle nous nous trouvons, et la moment de consommation lorsque Jésus reviendra encore. Écoutez bien pourquoi c'est important. Quand Jésus est venu, et le moment d'inauguration comprend le moment de son ministère terrestre et du ministère des apôtres, donc la même génération que lui. Lorsque le Fils de Dieu est venu, est devenu homme, est descendu sur terre, il a transporté le ciel avec lui sur terre. Nous voyons une puissance céleste qui agit, qui guérit les boiteux, les aveugles, et nous voyons quelque chose qui n'est pas de ce monde, mais qui est de la divinité, qui est céleste, qui est descendu dans sa personne, parce que c'est lui le roi du royaume de Dieu, son règne, et qui se déclenche parmi les hommes. Et pendant cette période d'inauguration, Jésus nous donne un aperçu et un échantillon de ce qui sera le royaume final. C'est pour ça que les gens sont ressuscités d'entre les morts et guéris de leur maladie physique. Parce que quand il viendra, tout le peuple de Dieu sera sans maladie et sans mort. Mais pour nous, comment est-ce qu'on aurait pu savoir que Dieu peut faire ça et qu'il fera ça? Seulement quand le Christ nous donne un échantillon et nous voyons, ah, c'est ça le royaume de Dieu. Ok? Lisez avec moi, donc sur le point D, 3D, inauguration, Matthieu chapitre 11, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean, parce que Jean-Baptiste, il a baptisé Jésus, il a dit à tout le monde, c'est le Messie, et puis quand il est emprisonné, il gémit dans la prison un certain temps, et il commence à douter, est-ce que c'est vraiment le Messie, Jésus? Vous savez pourquoi il doute? Ben, mettez-vous à sa place. Il pensait, comme les Juifs, que lorsque le Messie vienne, le peuple de Dieu sera sauvé, délivré de tous leurs ennemis, et ce sera tout de suite la fin et le bonheur et le paradis. Or, il est en prison, n'est-ce pas? Et donc, il envoie dire à Jésus, est-ce que tu es celui qui devait venir ou est-ce que nous devons en attendre un autre? Et voilà la réponse de Jésus. Il veut montrer comment Jean peut être sûr que le royaume, le règne de Dieu est bienvenu en lui. Jésus leur répondit au messager de Jean, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc voilà la preuve que je suis le Messie, c'est que le règne, un règne céleste est venu sur terre et commence à renverser, à inverser tous les effets du péché. Tout ce que le péché a créé chez l'homme, je suis en train de le remettre d'aplomb. Ça, c'est le règne de Dieu, ce dynamisme qui vient remettre d'aplomb ce que nous avons gâché. D'accord? C'est ça le règne de Dieu. Et il dit, raconte simplement ce que vous voyez. Par une puissance qui n'est pas de ce monde, je suis en train de tout remettre d'aplomb. Je souligne tout simplement que cette phrase d'inauguration ne devait pas continuer jusqu'à la fin du monde. C'était que l'échantillon pour montrer ce que la plénitude sera. D'accord? C'est pour ça que Jésus part. Ok? Jésus part parce que ce qu'il amène, il amènera pour toujours plus tard. Il n'est pas venu pour installer de manière permanente la guérison de toutes les malades. Il le fera, mais quand il sera là encore et d'une manière permanente. Ça va? Ok. Phase de continuation, c'est là où nous sommes. Saviez-vous que le règne de Dieu est en train de venir de plus en plus dans le monde aujourd'hui? C'est ce que nous prions. Et de plus en plus de gens sont gagnés au royaume de Dieu. On nous dit que l'Église n'a jamais grandi en 2000 ans autant que dans ce siècle. Dans l'Amérique du Sud, dans l'Asie, dans l'Afrique, des centaines d'églises chrétiennes véritables sont nées toutes les semaines. Des centaines d'églises. Et donc la mission chrétienne n'a commencé en Afrique que dans le 19e siècle. L'évangile est arrivé dans le 19e siècle. Et maintenant, le christianisme est la religion dominante en Afrique noire. Quand j'y vais pour enseigner, pour prêcher, quand je prêche dans une église, c'est pas comme ici. Je prêche devant 500 personnes. C'est incroyable. Dans cette étape de continuation, le Seigneur est en train de transformer son peuple intérieurement. Non pas mon corps, mais mon âme et mon cœur. Une puissance aussi grande, plus grande que celui qui guérit les aveugles, est en train de me guérir de mon aveuglement spirituel. Une puissance plus grande que celui qui, que celle, pardon, qui a guéri les boiteux est en train de me rendre capable de marcher dans la droiture de plus en plus, de me tenir debout. Et une puissance plus grande que celle qui a guéri les sourds me donne en plus, de plus en plus, la capacité d'entendre avec foi ce que Dieu me dit. Il y a un règne qui, de manière dynamique, est en train de venir dans ma vie et dans votre vie si vous êtes croyant. Lisez avec moi les deux passages là, et puis on va arrêter avec cette phase pour arriver à la phase finale. Luc 17. Il leur répondit, Jésus répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il dit à ses disciples, des jours viendront
où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le jour va venir où vous allez désirer voir un de ces jours où j'ai guéri, où j'ai ressuscité des morts, un des jours du Fils de l'homme. C'est lui-même. Okay? Mais vous ne le verrez pas. C'est-à-dire le royaume va venir d'une manière qui va plus frapper les regards. Okay? Les hommes ne vont pas voir, ça va être minable, parce que Dieu est en train de travailler là maintenant pour nous bouleverser intérieurement et nous changer là où ça compte. À quoi bon d'avoir une santé de fer quand on est égoïste, méchant, amer, mauvais? Le vrai travail, le plus important du royaume de Dieu, c'est d'abord ici. À la fin, il sera complet dans mon âme et dans mon corps. Romains 14, pour vous montrer. Maintenant, Romains 14 est écrit par Paul. Jésus est déjà parti. Et regardez bien, c'est vers l'année 65 que Paul écrit l'épître aux Hébreux. Car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il ne parle pas de miracle physique, mais il parle de miracle spirituel et moral. Il dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, ça veut dire la droiture morale, la droiture, la paix et la joie dans le cœur de quelqu'un profondément au milieu de ce monde mauvais. La joie dans le Seigneur, la joie dans le salut que le Saint-Esprit produit. Le règne de Dieu se montre par là. Ok, la phase dernière qui viendra un jour, c'est la phase de consommation. C'est ça? Consommation? On peut dire oui, oui. Donc, Paul, qui est déjà dans le royaume, hein, il fait partie du royaume, il dit en 2 Timothée 4, « Le Seigneur me délivrera au futur de toutes les œuvres mauvaises et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » Mais tu n'es pas déjà dedans, Paul? Oui et non. Je suis dans le royaume, dans sa phase imparfaite, mais il parle du paradis complet du royaume consommé. 1 Corinthiens 15, ensuite viendra la fin quand il, Jésus, remettra le royaume à celui qui Dieu est Père après avoir détruit toute dénomination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne, Jésus, jusqu'à ce qu'il mette tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Vous pouvez donc comprendre que le royaume de Jésus, graduellement, est en train de faire la conquête. Et le dernier ennemi, c'est la mort, qui sera détruit quand il reviendra. Ok, si vous pouvez rester avec moi juste un tout petit peu, je dois vous dire une chose de plus avant de vraiment rapidement parler de cette requête dans la prière du Seigneur. Et la dernière chose que je dois vous dire, c'est que le royaume de Dieu qui est venu par Jésus a trois caractéristiques. Comment est-ce que je peux savoir que Dieu est en train de faire venir son règne dans la vie de quelqu'un? Il y a trois caractéristiques. Là où Dieu règne, c'est une sphère, là où Dieu règne, où Christ règne, c'est une sphère où la puissance du Seigneur domine. Luc chapitre 11. Jésus dit, parce qu'il vient de chasser des démons de quelqu'un, il dit, mais si c'est par le droit de Dieu, parce qu'on a dit, les pharisiens ont blasphémé, on dit, c'est par la puissance de Satan que tu as chassé les démons. Et Jésus dit, si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Que le royaume vienne, comment est-ce que nous savons que le royaume est venu? Là où le royaume vient, le mal est mis à mal. on est délivré de la domination du mal. Et ici, il s'agit d'une possession démoniaque, mais pour nous, il peut s'agir d'une délivrance graduelle de plus en plus de nos craintes, de notre égoïsme, de notre immoralité, de notre orgueil. D'accord? Si c'est par le droit de Dieu que je chasse des démons, le royaume de Dieu est donc venu. Le royaume est cette sphère
où le droit de Dieu, c'est-à-dire la puissance de Dieu, chasse le mal. 1 Corinthiens 4 nous montre aussi la même chose, que c'est une sphère de la puissance de Dieu en action, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. D'accord? Il y a des choses dont vous ne pouvez pas vous délivrer. Et la puissance miraculeuse du Seigneur dans votre vie peut le faire. Deuxièmement, le royaume de Dieu est une sphère où la justice du Seigneur domine. Ah, je vois cette personne et je vois de plus en plus que la droiture biblique commence à dominer les anciennes habitudes et attitudes de cette personne qui était mauvaise. Nous lisons, le royaume de Dieu, c'est non pas le manger le boire, mais la justice, la droiture, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ou bien cette phrase que vous connaissez bien, où Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous voyez, il attache les deux parce que le royaume de Dieu, c'est là où, à cause de la domination de Dieu dans ta vie, tu deviens de plus en plus juste. Ok? Et quelqu'un qui se dit chrétien, moi je suis chrétien, et il vous dit, il est chrétien parce qu'il a des expériences grandioses, mais il ne devient pas de plus en plus juste, il vous ment. Parce que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Troisièmement, le royaume de Dieu, c'est la sphère où la bénédiction du Seigneur domine. Où je dis le bonheur. Vous savez, Dieu ne nous a fait pas pour être misérables. Il a fait l'homme pour que l'homme soit à son image et que nous soyons dans la félicité d'une vie avec un Dieu incroyablement bon et aimant. N'est-ce pas? Et donc, nous sommes dans la misère et le règne de Dieu, c'est que Dieu s'affirme. Il affirme sa seigneurie, je suis Seigneur, je remets les choses d'aplomb et remet l'homme dans un état de joie et de bonheur et de faveur et de bénédiction. Sa vie devient bénie. Même si, comme le royaume n'est pas complètement venu, on peut avoir quelques souffrances physiques et des malheurs qui nous arrivent de l'extérieur. Ici, dans mon fort intérieur, dans ce que je suis, ce que je sens et ce que je vis, de plus en plus, je suis dans le bonheur, la paix qui vient de cette relation et cette faveur et ce pardon de Dieu. Donc, ça, nous le lisons en Matthieu 13, donc une sphère de bonheur ou de bénédiction, cette parabole. Le royaume des cieux est encore comme un trésor. Là où il y a le royaume de Dieu, c'est un trésor, c'est une richesse, c'est un bonheur, c'est un état béni. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. C'est quelqu'un qui devient propriétaire d'un grand trésor, d'une grande bénédiction. Okay? Ou Romains 14 que nous avons lu, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. C'est-à-dire un état béni, pas maudit, ainsi de suite. Ok, donc je crois que vous comprenez que nous sommes dans ce, si nous croyons, nous sommes sous cette domination du Christ par son esprit en nous, par son pardon, par lequel il est en train de prendre le dessus, souverainement, par sa grâce, parce qu'il a voulu. C'est lui qui nous a cherchés, pas nous qui l'avons cherché. Et de plus en plus, il est en train de faire venir son royaume et son règne dans notre vie. Ça nous aide, dans le dernier point, à comprendre, quand nous prions que ton règne vienne, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes tout simplement en train de dire que par ta puissance triomphante, Seigneur Jésus, où tu as tout remporté la victoire à la croix, donc applique cette conquête acquise dans ma vie, de sorte que la droiture, la paix et la joie règnent en moi de plus en plus. Que ton royaume vienne, règne sur moi. Pour que ce ne soit plus le royaume de David, Ou le dicton, c'est le slogan, c'est que ma volonté soit faite, n'est-ce pas? Mais que ton royaume vienne, où mon cœur est changé et mon vrai vouloir, c'est oh que ta volonté soit faite sur la terre et dans ma vie comme dans le ciel. Ça, c'est un miracle, c'est un changement énorme. Donc, c'est quand nous prions, Seigneur, que par ton règne, soumets, brise mon incrédulité, mon immoralité, mes craintes et mes doutes, pour que tu règnes et que je ne sois plus conformé à ce monde, ce siècle présent, mais que je sois transformé par le renouvellement de mon intelligence. Donc, nous sommes en train de prier pour nous-mêmes d'abord, quand nous disons que ton règne vienne dans ma vie. Mais pas seulement pour nous, bien sûr. Nous ne pouvons pas être aussi égoïstes pour ça que ça. Quand je prie que ton règne vienne, je suis en train de penser à mon voisin, à mes enfants, au pays lointain. Et je suis en train de prier que ton règne vienne, fais venir ton évangile, fais venir la connaissance du vrai Dieu et du vrai salut, de ta grâce, que les âmes se livrent à Jésus-Christ comme le Sauveur et le Seigneur, qu'ils soient changés et bouleversés par toi. C'est ça que je suis en train de prier aussi, parce que je sais que c'est le seul espoir des hommes. Et dernièrement, quand j'ai dit que ton royaume vienne, je suis en train de prier pour le retour de Jésus-Christ aussi. Parce que le royaume n'est pas seulement cette phase spirituelle où il bouleversait notre vie en nous changeant, mais ce moment où il va mettre fin à la mort, à la souffrance, à la maladie, au deuil, à la misère, et il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, lorsque je dis et vous dites que ton règne vienne, nous sommes en train de prier, hâte-toi de venir et de finir ce que tu as commencé. La chose principale, chers amis, c'est de savoir que quand nous prions dans le sens du triomphe de Jésus, qu'il est roi, qu'il est Seigneur, qu'il a remporté la victoire, et nous voulons voir cette victoire, cette seigneurie manifestée pleinement sur la terre. Et cela nous enseigne trois choses. Quand je prie que ton règne vienne, ça m'enseigne à vivre dans une dépendance totale vis-à-vis de Jésus-Christ. De dire que c'est plus que dire aide-moi à changer moi-même les choses. Non, je dis viens-toi dominer sur ce qui a du pouvoir sur moi. N'est-ce pas? Et par là, je vois que il n'y a que Christ qui peut briser le péché en moi. Deuxièmement, quand je prie que ton règne vienne, je corrige chaque fois ce mensonge que je crois trop facilement, c'est que c'est la misère que d'être subordonné à quoi que ce soit. Je suis en train de dire le contraire. Règne sur moi, règne sur les hommes. Et troisièmement, je suis en train de diriger mes yeux au-delà de ce temps, au-delà de cette histoire, et dire, oh, fais venir la finalité pour laquelle nous attendons. Notre espoir n'est pas ici-bas. C'est pas dans un royaume à moitié venu. Oh, faites venir la gloire de ta présence consommée. Que le Seigneur nous aide à prier ainsi. Nous allons chanter un dernier chant qui est le 324, comme un fleuve immense.